Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 12. Celle qui arrivait ainsi chez la mendiante était Henriette, qui, ayant suivi les indications données par la fille dépenaillée qu'elle avait rencontrée dans la rue, était arrivée tout droit devant la masure à la porte peinte en rouge. « Qui demandez-vous ? » lui dit la mégère en fixant sur elle ses deux yeux de chouette. Du dehors, Henriette répondit « Madame Frochard, qu'est-ce que vous lui voulez ? Il faut absolument que je lui parle. » Rapidement, la mendiante avait jeté un coup d'œil dans la rue, à droite et à gauche. « Ah, vous êtes seule ? » fit-elle en simulant la surprise. « Oui, seule. » Quoique rassurée, la Frochard donna un second coup d'œil dans la rue et s'effaçant pour livrer passage à la jeune fille. « Pour lors, entrez !» lui dit-elle. Henriette pénétra avec hésitation dans ce bouge. Involontairement, elle tressaillit en voyant que la femme passait derrière elle et demeurait quelques secondes sur le seuil avant de refermer la porte. Mais surmontant l'impression de dégoût qu'elle éprouvait en se sentant dans cet infect taudis, elle regarda de tous les côtés comme si elle eût pensé découvrir l'endroit où se trouvait l'aveugle. « Est-ce donc ici ? » murmura-t-elle. « Qu'elle habite ?» La Frochard s'était rapprochée à pas de loup et continua à dévisager la jeune fille. Henriette sentit sous ce regard méchant revenir tout l'effroi qu'il avait saisi à son entrée dans la masure. Elle se mit à trembler, gardant le silence. « Voyons, parlez !» commença la mendiante. « Qu'est-ce que vous avez à lui dire à Mme Frochard ?» Le cœur battait bien fort à la jeune fille, paralysant chez elle l'usage de la parole. « Vous étiez si pressée !» reprit la mégère. « Vous regardiez partout, comme si vous cherchiez quelqu'un. » Ces mots rappelèrent Henriette à elle-même. « En effet, balbutia-t-elle, je cherche quelqu'un. »«
Qui ça ?»«
La personne qui demeure ici, avec vous. » Le regard méfiant de la Frochard fouilla jusqu'au plus profond des yeux de la jeune fille. Et elle s'informa.
« Quelle personne ?»«
Une jeune fille. » La veuve du supplicié ébaucha un geste de stupéfaction aussitôt réprimé. « Est-ce que ce serait la sœur ? » pensa-t-elle. Et tout haut, avec sa voix éraillée.
« Une jeune fille que vous dites ? Connais pas. »«
Comment ? » s'écria Henriette étonnée. « Vous ne la connaissez pas ? » ?»«
Non. »
Et pourtant, on m'a bien désigné cette maison isolée, au bout d'un champ, près de la rivière.
Il y en a bien d'autres tout le long de la rivière.
Henriette, trompée par ces paroles, commençait à supposer qu'elle avait été mal renseignée.
« Je me serais donc trompée, » dit-elle avec hésitation. « Faut croire. Cherchez plus loin, mademoiselle. »
La Frochard pensait en sortir de cette façon, et mentalement, elle se proposait de déguerpir dès le lendemain avec l'aveugle. Cependant, Henriette insista.
« Mais vous vous appelez bien Madame Frochard ?»«
Euphémie Frochard.
Après ?»«
Vous demandez l'aumône en compagnie d'une jeune fille qui chante dans les rues. »
La mégère était prise. Elle eut un mauvais regard à l'adresse de celle qui lui faisait subir un interrogatoire aussi serré. Pour s'en tirer, elle feignit d'être froissée profondément par les paroles qu'elle venait d'entendre.
« Comprends pas !»
dit-elle d'un ton sec, et prenant un air pincé.
« Pourquoi que je demanderais l'aumône ?
J'ai deux fils qui travaillent,
un qui est rémouleur, »
et indiquant du doigt la meule de pierre.
« Tenez, » ajouta-t-elle d'une voix triomphante, « place à manivelle dans ce coin. »
Plus que jamais, Henriette était embarrassée.
« Alors ? »
commença-t-elle en hésitant. Elle pensait qu'il était inutile de demeurer plus longtemps dans ce taudis qui lui soulevait le cœur. La Frochard voulut profiter de cette hésitation pour convaincre tout à fait la jeune fille qu'elle avait fait fausse route en venant chez elle.
« Mon autre fils, qui est là, tout près en face !»
Et intérieurement, elle pensait « Si le chérubin pouvait revenir !» Au moment où Henriette était plus embarrassée que jamais, elle se rappela la carte que le médecin de la salpêtrière lui avait remise, et revenant à la charge. «
Pourtant, je me souviens que le docteur... »
La phrase commencée s'acheva dans un cri. La jeune fille venait de jeter un coup d'œil sur l'accoutrement de la mendiante. Elle s'écriait «
Ce châle !» Je le reconnais, c'est le sien. Le sien, vous dis-je. En même temps, elle enlevait l'objet désigné de dessus les épaules de la vieille qui, tout ahurie de ce qui arrivait, bégayait avec colère.
Du tout, c'est à moi. C'est... Et ce fichu ? Interrompit Henriette. Ce fichu, à votre cou.
Hein ? Quoi ? Ce fichu, brodé par moi, pour elle.
Ah, malheureuse ! Cria la jeune fille en s'emparant du fichu de mousseline.
Vous mentiez, vous mentiez.
Pincé, pensa la Frochard. Mais elle n'était pas femme à perdre aussi facilement la tête. Du reste, elle se sentait forte, sachant son fils Jacques dans le voisinage. Elle n'hésita pas à se démasquer à demi.
« eh ben oui, là, c'est vrai, c'est moi !»
déclara-t-elle, puis avec une compassion feinte.
« Je vous voyais si tremblante que je n'osais pas vous conter la vérité. »
Mais Henriette voulait tout savoir, maintenant qu'elle croyait avoir retrouvé Louise. Elle répondit donc avec vivacité.
« Parlez alors, parlez !»
La Frochard improvisa un mensonge.
« Cette petite que vous cherchez, » dit-elle en s'efforçant d'adoucir sa voix.
« Je l'avais rencontrée, je l'avais ramassée un soir, qu'elle était perdue dans les rues de Paris.
« Continuez de grâce !»«
Vu que je ne pouvais pas la nourrir, » poursuivit l'ignoble femme, « elle chantait comme une petite fauvette pour gagner son pain. »
« Après, après !»
insista Henriette haletante. La Frochard se composa une physionomie attendrie.
« Après ?» reprit-elle.
« Ah, dame, la pauvre enfant ! Elle n'était plus guère faite à la vie qu'elle menait, mais le chagrin l'épuisait encore plus que la fatigue. En sorte qu'après 3 mois de désespoir et de larmes, j'ai fini de chanter, qu'elle a dit. Et ce n'était que trop vrai. Depuis 2 jours, la fauvette ne chante plus.
« Morte ?»
s'exclama Henriette en poussant un cri de désespoir.
« Ce n'est pas moi qui l'ai dit !»
prononça sournoisement la mendiante à part. Henriette chancelait. La nouvelle la frappait au cœur au moment même où elle avait espéré retrouver l'amie tant pleurée par elle depuis ces 3 mois de séparation.
« Morte ! Morte ! » répétait-elle en se tordant les mains. « Ma Louise ! Ma sœur ! Elle est... Oh !»
Et jetant un cri déchirant, la malheureuse qui succombait à la douleur tomba affaissée sur le sol. Elle s'évanouit.
« De quoi ? Évanouite ! » glapit la mégère. « Je n'y ai dit que la vérité. C'est elle qui s'est figuré le reste.
Évanouite ! » répéta-t-elle fort embarrassée.
« Qu'est-ce que je vais en faire ?»«
Si elle parle, » continua-t-elle, « si elle nous dénonce et qu'on m'emmène la petite ?» Elle était visiblement inquiète et regardait sans cesse la porte, espérant à chaque instant que Jacques allait apparaître. Elle eut même l'idée d'aller l'appeler. Mais après réflexion, elle se dit « Mais si pendant ce temps elle revient à elle ?»«
Bah, elle ne verra pas l'autre. »
Puis, pour plus de sûreté, elle gravit rapidement les marches, arriva devant le grenier et donna un tour de clé à la serrure. Et retirant la clé.
« Une enfermée là-haut, et je vais enfermer l'autre en bas. Comme ça, rien à craindre. »
Redescendant alors, elle se précipita vers la porte qu'elle ferma à double tour derrière elle en se disant « Je vais ramener Jacques avec moi. » Mais à peine était-elle sortie que la porte du grenier était vivement agitée. L'aveugle s'était décidée à profiter de l'occasion qui s'offrait à elle de s'évader. Ce fut lorsqu'elle entendit qu'on fermait à clé la porte de la rue qu'elle comprit qu'elle pouvait en toute sécurité profiter des conseils et des indications donnés par le rémouleur. Et comme la porte avait commencé à céder sous la pression, Louise réitéra l'essai, cette fois en y mettant plus de force. Tout à coup, la serrure sauta, tombant avec bruit en dehors, et la porte s'ouvrit. L'aveugle, effrayé de son succès, demeura pendant quelques instants au haut de l'escalier, tâtonnant pour trouver sous sa main la corde qui servait de rampe. Au moment de fuir, la pauvre enfant hésitait encore. Qu'allait-elle devenir ? Aveugle qu'elle était, une fois qu'elle serait parvenue à gagner la rue. Et cependant, il lui fallait à tout prix tenter de recouvrer la liberté. Elle reprit donc courage. Et s'avançant sur la première marche, elle écouta.
« Je n'entends plus personne, » murmura-t-elle. Et Pierre avait dit vrai, la serrure ne tenait pas.
La malheureuse subissait une insurmontable émotion, et c'est en chancelant, s'arrêtant à chaque pas, qu'elle descendit les quelques marches qui donnaient accès au grenier. Une pâleur livide avait envahi ses traits. Ses mains amaigries tremblaient en se cramponnant à la corde. Lorsqu'elle eut touché le sol humide du taudis, elle chercha les mains en avant à se diriger. Et elle reprenait peu à peu courage, se disant en elle-même « Oui,
Je vais suivre le conseil que m'a donné ce bon Pierre, le seul ami que j'ai rencontré depuis que je suis séparée d'Henriette. Je demanderai au premier passant qui aura pitié de moi de me conduire à l'hôpital Saint-Louis, chez le brave médecin. » Puis, toujours tâtonnant, elle cherchait la porte, et dans le mouvement qu'elle fit pour se diriger, elle passa tout près du corps d'Henriette évanouie. Ah, si en ce moment la Providence eût permis que celle-ci sortît de la syncope qui l'anéantissait. C'en était fait, les deux sœurs se retrouvaient et fuyaient ensemble. Mais il était écrit que les malheureuses filles n'étaient pas au bout de leurs cruelles épreuves. Henriette ne bougea pas, et Louise arriva par miracle à la porte. « Ah, la voilà !» fit-elle avec une expression de joie. Hélas, son exclamation se perdit bientôt dans un soupir de découragement. La porte était fermée. Mais tout à coup, Louise se souvint que Pierre avait placé une clé sous le grabat. Alors, la pauvre aveugle entreprit de parcourir cette pièce, se cognant aux meubles, s'arrêtant subitement, croyant être en face d'un obstacle. Enfin, après 100 difficultés vaincues, elle arriva au grabat. La clé s'y trouvait en effet. « Ah, partons, partons » murmura-t-elle en se remettant en marche pour regagner la porte. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'elle s'arrêta effrayée, interdite. Son pied venait de heurter quelque chose sur le sol. Tremblante, elle se baisse et étend la main. « Une femme à terre ? » s'écrie-t-elle. Et tâtonnant, sa main a rencontré celle d'Henriette. Cette main est froide. La première pensée qui lui vient, c'est qu'un crime a été commis dans cette chambre. « Oh mon Dieu !» dit-elle. « C'est un crime qu'ils ont commis sans doute. Et se seront enfuis après. » Alors, se mettant à genoux, la courageuse enfant promène ses mains sur ce corps immobile. Elle tâte le visage. Il est glacé aussi. Elle cherche la place du cœur en se demandant « Est-elle morte, mon Dieu ?» Mais une exclamation s'exhale de ses lèvres. Elle a senti battre le cœur de cette femme étendue devant elle. Elle se dit que la malheureuse n'est qu'évanouie. Et dans son émotion, elle prononce ces mots d'une voix saccadée. « Madame, « Madame, parlez-moi !» Et désespérée, elle s'écrie. « Elle ne m'entend pas. Que faire ?» Le sentiment du danger qu'elle court elle-même ne peut cependant la décider à abandonner cet inconnu. Soudain, tout son sang se fige dans ses veines. La serrure a crié. La porte de la rue s'est ouverte avec un grincement de gonds. Elle entend des voix qu'elle reconnaît. Elle ne peut plus en douter. C'est la Frochard qui entre en compagnie de Jacques. La mégère a poussé un cri de rage. Elle n'a prononcé qu'un seul mot. « Ensemble !» Et Jacques s'est écrié à son tour. « Il faut les séparer, et vite !» Alors, la Frochard s'est approchée d'elle, et la saisissant par le bras, elle l'a forcée de se lever. La misérable est dans un tel état de fureur qu'il se manifeste par de sourds grondements. « Qu'est-ce que tu fais là » crie-t-elle à l'aveugle. « Comment es-tu sortie de ton grenier ?» Louise, tremblante, ne peut que balbutier. « Moi, madame, je... » Mais Jacques ne veut pas perdre de temps. « Dépêchons, » dit-il, « v'là l'autre qui se ranime !» Effectivement, Henriette semble près de sortir de son évanouissement. Déjà, elle a remué les bras et essaie de porter les mains à son front. « Remonte là-haut !» commande la Frochard à Louise. « Et tout de suite !» La pauvre aveugle résiste à cet ordre impérieux et cruel. « Mais cette femme » murmure-t-elle d'une voix suppliante. « Cette femme qui est là, malade !» C'est la voix du rémouleur qui lui répond. « Une femme ?» s'est écrié Pierre en entrant. La Frochard a hâte de se débarrasser de Louise. Elle la pousse vers l'escalier en grommelant. « C'est pas ton affaire, c'est la nôtre. Allons, marche !»« Mais marche donc » reprend-elle en brutalisant l'aveugle pour la faire monter au grenier dont elle ouvre la porte. À ce moment, Henriette ouvre les yeux. Elle aperçoit Louise et pousse un cri déchirant auquel a répondu une exclamation partie du haut de l'escalier. Henriette, se débattant contre Jacques, qui lui a appuyé la main sur la bouche pour étouffer ses cris, est parvenue à se dégager des bras du misérable. Affolée, elle s'élance au-devant de son amie en s'écriant « Louise ! Louise !» L'aveugle a réuni toutes ses forces pour repousser la Frochard. « Henriette » appelle-t-elle. Et en chancelant, elle redescend l'escalier, rencontre Henriette qui, malgré Jacques, vole à son secours et se précipite dans ses bras en pleurant, disant au milieu de ses larmes. « Ah, mon Henriette, c'est toi, toi !» Et les deux affligées, dans les bras l'une de l'autre, s'étreignent et s'embrassent ivres de joie. « Ah, ma sœur, Tels sont les seuls mots que l'aveugle, paralysé par l'émotion, puisse prononcer. Pierre les a entendus, ces mots, et il ne peut dissimuler sa joie.
« Sa sœur !» répète-t-il tout bas. Mais Henriette a trouvé sa présence d'esprit. Elle regarde la Frochard et Jacques avec des yeux exprimant tout le dégoût qu'elle éprouve. Et courageusement, elle leur crie. « Ah, vous êtes des misérables! Ma pauvre Louise, dans quel état je la retrouve ? Oui, vous êtes des misérables !» reprend-elle avec force. « Des misérables que je ferai punir !» Puis, entraînant l'aveugle, « Partons !» lui dit-elle. Après un premier moment d'hésitation, provoqué par l'attitude énergique de la jeune fille, Jacques n'a pas tardé à retrouver son cynisme. C'est lui qui maintenant va barrer le passage des deux fugitives. « Vous ne passerez pas !» hurle-t-il en se plaçant résolument devant les jeunes filles. « Vous prétendez nous retenir ?» dit Henriette. Pierre s'est avancé vers sa mère en déclarant qu'elle ne pouvait garder ces jeunes filles malgré leur volonté. « Il le faut !» riposte la mégère. « Elles iraient nous dénoncer !» De son côté, Jacques, qui voit sa proie près de lui échapper, s'adresse à Henriette pour lui dire en désignant l'aveugle. « Je ne veux pas que vous l'emmeniez d'ici. Mais je crierai, j'appellerai au secours. » Hors de lui, Jacques s'est redressé, et les bras croisés, il riposte avec des regards terrifiants. « Essayez, nous sommes d'une famille qui tue. Je vous en avertis. » Et montrant Louise, il ajoute en élevant la voix. « Personne ne me la prendra vivante. Elle est à moi, et je la garde. » Le rémouleur avait assisté à cette scène, le cœur bourrelé d'émotions. Il savait maintenant qu'il allait perdre à jamais sa chère aveugle. Mais il savait aussi qu'elle ne serait plus au pouvoir de la Frochard, qu'on ne l'obligerait plus à mendier, qu'on ne la brutaliserait plus, qu'elle ne tomberait pas souillée dans les bras du chérubin. Et le brave garçon avait renfoncé ses larmes. Il les gardait pour les nuits à venir, lorsque le souvenir de l'aveugle entrait. Mais en voyant Jacques s'opposer au départ de Louise, Pierre n'avait pu se contenir plus longtemps, et sans réfléchir aux conséquences de son intervention, furieux, il s'élança entre Jacques et Louise, et saisissant celle-ci, il trouva une force qu'il ne soupçonnait pas pour l'arracher des bras du misérable. « Ah, c'est trop d'infamie » cria-t-il au lâche qui s'attaquait, lui, robuste, à une infortunée qui ne pouvait lui opposer que des prières et des larmes. Louise, débarrassée de l'étreinte de Jacques, les deux sœurs se tenaient maintenant embrassées, tremblantes, redoutant les plus effroyables choses. Jacques, étonné après une seconde de stupéfaction, va se placer en face de son frère et lui dit ironiquement « Tu oses élever la voix ?» Pierre le regarda sans pâlir. « Oui, je l'ose, » répondit-il. « Contre moi ?» Le rémouleur était transfiguré. Lui, d'ordinaire si humble devant le colosse, il se trouvait maintenant du sang dans les veines, du feu dans le cerveau. « Oui, » s'écria-t-il, « contre toi, devant qui j'ai tremblé trop longtemps. Tu ne me fais plus peur. « Ah, c'est que te voyant grand et fort, je te croyais courageux. Et je tremblais devant toi. Mais tu as la bassesse de menacer des femmes. Allons donc, tu es lâche, et mon courage vaut à présent plus que ta force. » Louise eut une exclamation pour témoigner de la reconnaissance qu'elle éprouvait en ce moment pour le seul être qui l'eût prise en compassion. « Bien, Pierre, » s'écria-t-elle. « Comptez sur moi, mademoiselle, » déclara le rémouleur. Mais il n'avait pas achevé que Jacques marchait sur lui en hurlant. « Eh bien, soit, à nous deux l'avorton. Tu veux donc ?» Pierre le regarda froidement, bien en face. « Je veux que tu les laisses partir, » dit-il d'un ton ferme. « Vraiment ?» ricana le chérubin. « Je veux t'empêcher de commettre le crime odieux que tu médites et que je lis dans tes yeux. » Cette fois, la Frochard eut peur. Elle tenta de s'interposer. Mais Jacques l'écarta et s'adressant à son frère, toujours impassible devant lui, il lui dit « Et si je refuse, qu'est-ce que tu feras ? Ce que je ferai, nous sommes d'une famille qui tue, tu viens de le dire. Si tu portes la main sur l'une d'elles, eh bien quoi ? Après ? Je te plongerai ce couteau dans le cœur. » Et Pierre avait brandi l'arme. Malgré lui, Jacques eut un mouvement comme pour s'éloigner instinctivement. Mais se remettant, « Toi, toi, tu oserais ? Si j'oserais ! » s'écria le rémouleur, dont les yeux étincelèrent. Il connaît le secret de mon âme et il demande si j'oserais. Pour la dernière fois, répliqua Jacques, songe qu'il y va de ta vie ou de la tienne. La Frochard eut un bond de tigresse et vint se placer entre les adversaires et s'adressant au rémouleur. Misérable, deux frères! Pierre la repoussa en ripostant. Oui, deux frères, comme jadis, les deux fils d'Adam. Mais cette fois, les rôles sont changés.
et c'est Abel qui va tuer Caïn.
Eh bien, nous allons voir, s'écria Jacques.
Prends garde, dit Pierre. Je sens rugir en moi l'âme ressuscitée de notre père.
C'est bien, rugit Jacques furieux. Frochard contre Frochard. Il va couler du sang.
Et ce duel entre frères commença, acharné, terrible. Jacques, certain, pensait-il, de la victoire, leva son coutelas et le laissa retomber sur l'épaule de son adversaire, qui, pour parer le coup, avait instinctivement étendu le bras. Un cri d'horreur s'échappa des lèvres d'Henriette. Elle avait été la première à voir le sang qui rougissait la chemise de son défenseur.
« Il est blessé !» dit-elle à Louise.
Mais déjà les deux combattants se reprenaient, se portant des coups furieux, parés avec habileté par Jacques, avec courage par Pierre.
« Non, je ne suis pas blessé !» avait répondu le rémouleur en entendant l'exclamation de la jeune fille. Mais il n'en était pas moins vrai que le coup avait porté. Le sang coulait à flot.
« Tu as ton compte, l'avorton !» dit Jacques.
« Misérable !» dit Pierre. « Mais ma chère en lambeaux, tant que Louise sera en danger, je ne sentirai rien. »«
Eh bien, finissons-en »
Le belâtre s'était de nouveau précipité sur Pierre. Le combat recommençait, plus furieux, plus horrible que jamais. Au coup terrible que lui porta Jacques, le rémouleur riposta par un coup de pointe lancé au hasard. La lame pénétra tout entière dans la poitrine de Jacques, qui tomba comme une masse. La Frochard, affolée, avait couru se jeter sur le corps du vaincu en criant « Jacques ! Jacques !» Le rémouleur profita de ce moment pour s'avancer tout sanglant vers les deux jeunes filles qu'il venait de délivrer. Et c'est d'une voix tremblante qu'il dit à Louise «
Partez ! Maintenant, partez !»
Il n'osait toucher la main qu'elle lui tendait, de cette main rouge du sang de Jacques.
« Mais vous, Pierre ?»
demanda l'aveugle, s'inquiétant de ce qui pouvait arriver à ce brave cœur, qui pour elle, pour sa délivrance, venait de tuer son frère.
« Qu'allez-vous devenir ?»
ajouta Henriette en dirigeant vers la porte Louise, qui maintenant ne se laissait entraîner qu'avec peine. Le rémouleur baissa la tête, puis regardant d'un air égaré le couteau sanglant qu'il tenait à la main.
« Moi, dit-il, j'attends la justice. »